VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mardi 7 mai 2019. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Les États-Unis vont soutenir les programmes de relèvement du poule au Congo-Brazzaville.
En RDC voisine, les autorités sanitaires s'attendent à une augmentation des cas de contamination et de décès dus à la maladie à virus Ebola.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, lancent un nouvel appel à un cessez-le-feu en Libye.
Au moins 90 personnes ont été tuées au Soudan depuis le début des manifestations qui ont coûté le pouvoir au président Omar El-Béchir.
Les États-Unis accélèrent l'arrivée en mer d'Oman du porte-avions et groupe aéronaval USS Abraham Lincoln.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Les États-Unis vont soutenir au Congo-Brazzaville le programme de relèvement consacré à la reconstruction du poule et visant à aider les populations de cette région à réaliser des projets de développement durable. C'est la directrice Afrique centrale du département d'État américain, Melanie Higgins, qui a fait cette déclaration à Brazzaville où elle effectue une visite de travail. Des détails avec notre correspondant Arsène Séverin.
C'est à l'issue d'une réunion avec Antoinette Dinganjodo, ministre en charge de l'action humanitaire, que Melanie Higgins a annoncé la disponibilité des États-Unis à accompagner le Congo dans la reconstruction du poule. Les États-Unis félicitent le gouvernement pour avoir maintenu 18 mois de paix dans le poule, a affirmé la directrice Afrique centrale du département d'État américain. Actuellement, les États-Unis sont en train d'identifier les projets de développement durable qu'ils vont directement financer dans le poule, a-t-elle ajouté. Un soutien qui vient à point nommé car les autorités sont à la recherche de partenaires financiers pour réaliser le programme de relèvement récemment lancé dans le poule où plusieurs villages et des infrastructures publiques ont été détruits lors des dernières violences armées. L'ambassadeur des États-Unis au Congo, Todd Haskell, a été l'un des premiers diplomates en poste à Brazzaville à avoir accédé dans le poule alors que le cessez-le-feu entre les forces armées et les miliciens ninja n'avait pas encore été effectif. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
De l'autre côté du fleuve, en République démocratique du Congo, les autorités sanitaires ont déclaré lundi s'attendre à une augmentation des cas de contamination et de décès dus à la maladie à virus Ebola, et ce, après 2 jours de ralentissement des activités de riposte dans l'est du pays. À Boutembo, carrefour commercial d'1 million d'habitants, des équipes de riposte contre Ebola sont régulièrement ciblées par des attaques. Et un médecin camerounais de l'OMS a été abattu le 20 avril alors qu'il participait à une réunion dans un hôpital.
Au moins 90 personnes ont été tuées au Soudan depuis le début des manifestations qui ont coûté le pouvoir au président Omar El-Béchir. C'est ce qu'a indiqué hier un comité de médecins lié au mouvement de contestation. Irénée Herman Ungbo.
Ce bilan dépasse celui publié par les autorités qui ne font état que de 65 morts à ce jour. Le comité de médecins membres de l'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance de la contestation, précise dans un communiqué que le premier décès a été enregistré le 20 décembre au cours d'un défilé dans la ville d'Atbara dans le centre. C'est dans cette ville qu'ont eu lieu les premiers rassemblements contre la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. Cette association de médecins affirme avoir depuis documenté 10 cas de martyrs tués par les forces de sécurité. Le dernier cas recensé est celui d'un manifestant mort dimanche des suites de blessures subies à Niala, la capitale de l'État du Darfour Sud dans l'ouest du Soudan. Le comité dit avoir établi la liste des 90 morts à partir de sources fiables et malgré les restrictions imposées par les forces de sécurité et les vestiges du régime.
Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ont lancé hier un nouvel appel à un cessez-le-feu en Libye, un appel rejeté jusqu'à présent par le maréchal Khalifa Haftar, qui veut poursuivre sa conquête de Tripoli, siège du GNA, le gouvernement d'Union nationale reconnu par la communauté internationale et dirigé par Fayez al-Sarraj. Selon l'ONU, les affrontements en Libye ont fait au moins 432 morts, 2069 blessés et plus de 55 000 déplacés.
Au Libéria, le président George Weah a suspendu hier son vice-ministre chargé de la presse et réaffirmé sa politique de tolérance zéro pour les divisions ou le tribalisme. Son vice-ministre est accusé de raviver les tensions ethniques à un mois d'une grande manifestation de l'opposition pour avoir insinué que l'élite américano-libérienne du pays était à l'origine de cette vague de protestations. George Weah, au pouvoir depuis janvier 2018, est seulement le deuxième président du Libéria à ne pas appartenir à cette élite dite Congo, descendante d'esclaves américains affranchis qui y domine la vie politique depuis 170 ans.
Nouvelle attaque attribuée aux islamistes dans le nord du Mozambique. 3 personnes ont été tuées dans ces violences qui menacent la distribution de l'aide aux sinistrés du cyclone Kenneth et perturbent l'inscription des électeurs pour la présidentielle d'octobre. Le point avec Morgane Guiriac.
Il s'agit de la 4e attaque entre vendredi et dimanche dans la province du Cabo Delgado. Dimanche soir, des hommes armés sont arrivés dans le district de Meluco, dans le village de Minanan. Ils ont tué 3 personnes et brûlé une centaine de maisons. Dans la nuit de vendredi à samedi, des insurgés avaient tué 4 personnes dans le district voisin de Macomia, dans les villages de Ntapuala et Bangavela. Samedi, ils ont aussi envahi les villages de Iba et Ipo, dans le même district, pillé des maisons sans faire de victimes et paralysé l'inscription sur les listes électorales, d'après une ONG chargée d'observer le processus électoral. Vendredi, des islamistes présumés ont attaqué un autre centre d'enregistrement dans la ville voisine de Nakate. Des hommes armés ont vandalisé l'équipement sans faire de victimes, a précisé une autre source locale. Le nord du pays est en proie depuis 2017 à une insurrection islamiste. Les violences ont fait au moins 200 morts et forcé des milliers de villageois à quitter leurs maisons.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les États-Unis accélèrent l'arrivée en mer d'Oman du porte-avions et groupe aéronaval USS Abraham Lincoln après des préoccupations selon lesquelles l'Iran préparerait une attaque contre des cibles américaines ou alliées. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a dit à la presse hier « Nous continuons de voir des activités qui nous font croire qu'une escalade pourrait avoir lieu. Nous prenons donc toutes les actions appropriées quant à la bonne posture de sécurité et à notre capacité à présenter un vaste éventail d'options au président si quelque chose venait à se passer », a expliqué le chef de la diplomatie américaine. Selon le journaliste israélien Barak Ravid, les services de renseignement israéliens ont récemment averti Washington de possibles projets d'éléments iranien visant une cible américaine dans le Golfe ou des alliés des États-Unis comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis. Notre confrère israélien estime que l'Iran cherche ainsi à réagir à la campagne de pression maximale de l'administration Trump qui veut forcer Téhéran à changer de comportement dans la région.
La Chine a annoncé que ses négociateurs seront au rendez-vous cette semaine à la prochaine série de pourparlers commerciaux ici aux États-Unis, bien que le président Donald Trump ait menacé dimanche d'imposer des tarifs plus élevés encore sur 200 milliards de dollars de produits chinois. En réaction au tweet de M. Trump, qui se plaint de la lenteur du processus, les principales places financières ont terminé dans le rouge lundi, inquiète du regain de tension entre les 2 premières puissances économiques du monde, susceptibles de miner l'économie mondiale.
Ici aux États-Unis, les démocrates annoncent l'ouverture dès demain d'une procédure contre le ministre de la Justice, William Barr, pour entrave aux prérogatives d'enquête du Congrès. Ils veulent avoir accès au rapport complet sur l'affaire russe. Des détails avec Abdourahman Dia.
Les démocrates, majoritaires à la Chambre des représentants, demandent au ministre qu'il leur transmette une version complète des conclusions de cette enquête sur les ingérences russes dans la présidentielle de 2016. Toutefois, le chef de la commission judiciaire de la Chambre, Jerry Nadler, n'exclut pas de repousser cette procédure si le ministère leur offre finalement de consulter le rapport. Le Congrès est la seule institution capable d'engager la responsabilité du président, notamment avec la procédure de destitution, justifie les démocrates dans une résolution recommandant l'ouverture de cette procédure. Les républicains, eux, crient à une initiative illogique et de mauvaise foi, puisque le ministère, selon eux, travaille encore sur cette requête. Dans son rapport, Robert Mueller a exonéré Donald Trump des soupçons de collusion avec Moscou lors de la campagne de 2016, mais il n'a pas tranché sur la question de l'entrave à la justice.
Deux journalistes de l'agence Reuters condamnés à 7 ans de prison en Birmanie après avoir enquêté sur un massacre de musulmans Rohingyas, ont été libérés mardi à l'issue de mois de pression internationale sur le gouvernement du prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi. Wallon et Kiao Soe-ho ont été assaillis par les médias en sortant de la prison de Rangoon où ils ont passé plus de 500 jours en détention. La Cour suprême birmane avait rejeté début mai le recours des deux journalistes dont la condamnation avait soulevé un tollé international.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
L'Angola va recevoir de la Banque mondiale un prêt supplémentaire de 1,2 milliard de dollars en juin prochain. Cet argent servira à l'exécution de projets d'infrastructure initiés par le gouvernement Lourenço. La Tribune Afrique écrit que l'enveloppe ira notamment à l'agriculture, les télécommunications, l'eau, l'électricité et le capital humain. Les fonds prêtés par la Banque mondiale à l'Angola s'élèveront donc au total à 2,4 milliards de dollars. Au Sénégal, la nouvelle réglementation de l'Union européenne sur l'importation des mangues entrera en vigueur dès le 1er septembre de cette année. Cette loi a été introduite en réponse au nombre élevé d'interceptions d'importation de mangue dues à la présence de mouches de fruits. Les exportateurs devraient dès maintenant travailler à se conformer à la nouvelle réglementation afin d'assurer la continuité des exportations de mangue pendant la saison 2020. Pour terminer, cette année, la Tunisie obtiendra de la Banque africaine de développement environ 500 millions de dollars pour les secteurs de l'énergie, la finance et l'infrastructure selon l'agence Ecofin.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Mohamed Salah est forfait contre Barcelone ce soir.
Oui, l'attaquant égyptien ne sera pas de la partie ce soir pour la tentative de comeback de Liverpool contre le FC Barcelone. En Ligue des Champions, Salah s'est blessé après un choc samedi dernier, un match de championnat contre Newcastle. En plus de l'égyptien, Liverpool devra aussi faire sans le brésilien Roberto Firmino et le guinéen Naby Keïta, dont la saison est terminée pour cause de blessure. De leur trio d'attaque habituel, les Reds ne pourront compter que sur le Sénégalais Sadio Mané. Le club anglais avait perdu 3-0 à l'aller au Camp Nou.
Les arbitres sont en grève au Ghana.
Oui, les arbitres ghanéens ont décidé de boycotter à partir d'aujourd'hui les compétitions organisées par le comité de normalisation du football. Dans une correspondance adressée hier au comité de normalisation, l'association des arbitres exige le paiement d'arriérés d'émoluments de la phase aller du championnat avant la reprise de la phase retour prévue pour cette semaine. Depuis un an, le football ghanéen est dans la tourmente avec la dénonciation d'un système de corruption en son sein qui a entraîné la démission du président de la fédération Kwesi Nyantakyi et la dissolution du bureau fédéral par la FIFA.
La FIFA ajoute deux prix dédiés au foot féminin à ses trophées annuels.
Oui, la FIFA a annoncé qu'elle ajoute deux prix dédiés au foot féminin, ceux de meilleure gardienne et de l'équipe type de la saison. À sa cérémonie annuelle de trophées qui aura lieu le 23 septembre à Milan, la cérémonie de trophées de la FIFA The Best compte désormais 11 prix, dont celui de meilleur joueur et de meilleure joueuse. Le Croate Luka Modric et la Brésilienne Marta ont été couronnés l'an passé.
Athlétisme, Eliud Kipchoge veut passer sous la barre des 2 heures.
Oui, le Kenyan va retenter de parcourir les 42 kilomètres du marathon en moins de 2 heures. La date de cette nouvelle tentative n'est pas encore décidée, mais devrait intervenir fin septembre ou début octobre prochain. Le champion olympique de Rio 2016 avait déjà tenté de réaliser le même défi en mai 2017. Il n'avait alors échoué qu'à 25 secondes des 2 heures, abrité par une voiture qui lui donnait le tempo, une performance non homologuée par l'I2AF compte tenu de ses conditions. Kipchoge, on se rappelle, a récemment remporté le marathon de Londres pour la 4e fois en 2h02min37s. NBA, pour finir avec vous Idrissa, les résultats des demi-finales des playoffs la nuit dernière.
Milwaukee a battu Boston 113 à 101 et mène la série 3 victoires à 1. Golden State à égalité avec Houston, 2 victoires partout, après la victoire des Rockets 112 à 108.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Michel Bachelet, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, vient de terminer une visite de 4 jours au Cameroun. Les droits de l'homme, bien sûr, et le climat sociopolitique avec la crise anglophone ont été au centre de ses échanges avec les acteurs politiques et la société civile. Compte rendu d'Emmanuel Jules Tap, notre correspondant à Yaoundé.
L'opposition, le parti au pouvoir et ses alliés, les défenseurs des droits de l'homme ou encore les leaders religieux ont tous répondu présents à la grande séance de consultation organisée par la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme peu avant son départ du Cameroun. La question des droits de l'homme consécutive à la crise anglophone a été l'un des sujets évoqués avec la diplomate onusienne Edith Kawala, présidente de la Cameroon People Party, un parti de l'opposition.
D'après les chiffres de Crisis Group, 1850 morts dans les 20 derniers mois dans la zone anglophone. 700 000 Camerounais qui sont en situation de personnes internes déplacées et plus de 2 500 000 enfants dont la scolarité est en péril. Nous avons demandé que des sanctions individuelles soient apportées aux membres du gouvernement qui sont responsables de cette situation. Ça veut dire le blocage de notre argent et qu'ils ont mis dans ces pays-là. Ça veut dire interpeller ces personnes par rapport à ces différentes situation.
Le gouvernement, pour sa part, a tenu à faire entendre un autre son de cloche au sujet de la question des droits de l'homme. Le ministre de la Défense, le ministre de l'Administration territoriale, de la Justice, le patron de la police et les principaux responsables de l'armée ont balayé du revers de la main toutes les accusations de violation des droits de l'homme. Isaac Ndjemoun Mama, le représentant du RDPC, lors de consultations avec la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme.
Nous avons apporté notre proposition tout en faisant comprendre à Madame le commissaire que le président de la République a pris toutes les dispositions et continue d'ailleurs à le faire pour que le calme, la paix règne dans toute l'étendue du territoire camerounais.
Pas suffisant pour atténuer les récriminations contre le régime de Yaoundé devant Michel Bachelet. Le Camoris Kamto a été la principale ligne d'attaque de son parti qui dénonce les violations des libertés publiques au Cameroun. Maître Emmanuel Sim, avocat et troisième vice-président du MRC, le parti de l'opposant Kamto.
Il est évident pour tout le monde que personne n'est mort au Cameroun du fait de Kamto et de ses alliés. On lui demande, autant qu'elle peut le faire, de faire recommandation au président de la République de libérer ces personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de l'exercice d'une activité politique.
Michel Bachelet a écouté pendant 3 jours passés au Cameroun et dans une brève communication à la presse, elle a précisé les raisons de son séjour au pays.
Je voudrais dire merci pour cette opportunité de connaître la situation et d'en apprendre un peu plus sur ce que le Cameroun fait et envisage comme solution pacifique pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun.
Notez que la haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme s'est également entretenue avec le président Paul Biya. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a totalisé 100 jours depuis son accession au pouvoir. Les tout premiers pas du successeur de Joseph Kabila sont diversement commentés. Certains lui reprochent son alliance avec son prédécesseur et les autres encouragent ses premières actions. Reportage de Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Les 100 jours de Félix Tshisekedi depuis son avènement le 24 janvier dernier à la tête de la République démocratique du Congo sont diversement commentés. Si à la coalition Lamuka on qualifie son premier bilan de catastrophique au plan politique, économique et de la gestion des finances publiques, à l'UDPS on s'en satisfait. Paul Tshilumbu, le porte-parole de l'UDPS Tshisekedi, souligne notamment la décrispation politique qui s'observe depuis que Félix Tshisekedi a été élu président.
Prenons par exemple le secteur de la décrispation politique. Djomin Dongala est dehors, ce qui était impossible hier. Jean-Claude Muyambo a retrouvé sa liberté. Franck Diongo est dehors. Firmin Ngambi, Moïse Katumbi ne croyait même plus qu'il pouvait revenir au Congo. Aujourd'hui, il a été continent en santé parce que le président Félix Tshisekedi a laissé la justice faire son travail en toute indépendance. Aujourd'hui, M. Moïse Katumbi a son passeport.
Élu de Kinshasa, le député national Patrick Muyaya souligne, lui, la volonté politique dont a fait montre Félix Tshisekedi, mais lui recommande de très vite prendre des décisions qui vont améliorer les conditions de vie des Congolais.
Le principal bilan qu'on peut retenir de 100 jours du président Félix Antoine Tshisekedi, c'est la volonté politique dont il a fait preuve tant au plan politique, diplomatique, social qu'économique. En 100 jours, aucun pan, aucun bâtiment, rien ne pouvait de substantiel être construit physiquement. Mais en 100 jours, il y a un leadership qui a été prouvé, une volonté politique qui a été consolidée parce que c'est la volonté politique qui ouvre le chemin. Et nous souhaitons que pour cette nouvelle phase qui commence, que les présidents mettent un coup d'accélérateur, notamment dans la désignation du Premier ministre. Le peuple est très impatient.
Le bilan de Félix Tshisekedi pour ses 100 premiers jours à la tête du pays est jugé encourageant pour le mouvement citoyen Lucha, lutte pour le changement, qui déplore tout de même son mariage avec le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila. Dans les rues de Kinshasa, les avis sont partagés entre encouragement, scepticisme et pessimisme.
À mon avis, c'est la volonté politique qu'il a affichée vis-à-vis de l'économie, vis-à-vis de la justice, vis-à-vis du social. C'est seulement ça qu'on peut féliciter pour lui, parce que la population, surtout de la ville de Kinshasa, les fonctionnaires, les provinces ont du mal à juger les 100 jours parce que pratiquement sur le terrain, on n'a rien vu.
Kinshasa est très grand. C'est seulement pas des petites routes qu'il est en train de construire, mais il fallait qu'il construise d'autres routes. Et puis, on a besoin du Premier ministre et d'autres gouvernements en place.
Selon moi, ces 100 jours, moi je pense, pour moi c'est un échec parce qu'il a été un peu trop pressé avec les choses.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
VOA Afrique, 24h/24, à Kisangani, en RDC, sur 97.7 FM.
Des militaires américains et de hauts gradés de l'armée burkinabé se sont récemment rencontrés au Pentagone, ici aux États-Unis, pour renforcer les liens dans le combat contre le terrorisme au Burkina Faso. Et cette fois, c'est la garde nationale de Washington DC, la capitale américaine, qui vient apporter son appui. Elle a profité des célébrations de son 217e anniversaire, le week-end dernier, pour accueillir une délégation des forces armées du Burkina. Reportage d'Arzuma Compaoré.
Protéger la capitale et défendre la nation. Voilà 217 ans que la garde nationale du district de Columbia remplit cette mission. Et comme le veut la tradition, un gâteau a été sorti pour célébrer cet anniversaire lors d'une soirée de gala au cours de laquelle la Jamaïque et le Burkina Faso, deux pays partenaires du district fédéral, étaient invités d'honneur. Le Burkina Faso est le 76e partenaire à rejoindre le programme du département américain à la défense.
Nous sommes absolument fascinés de pouvoir soutenir le Burkina Faso et d'aider sa capacité à lutter contre la violence et l'extrémisme dans la région, pas seulement au Burkina Faso, mais également dans la sous-région.
Le programme de partenariat d'État a commencé sur le continent africain en 2003 avec le Maroc et compte maintenant 14 partenaires, dont le Burkina Faso. Après avoir officiellement lancé le partenariat en février dernier, la garde nationale du district de Columbia et une délégation des forces armées nationales du Burkina Faso se sont retrouvés pour travailler sur les grandes lignes du programme pour les 5 prochaines années. Son Excellence Andrew Young, ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso.
Nous sommes ici pour avancer un partenariat entre les forces armées burkinabè et la garde nationale du District of Columbia. Ensemble, nous avançons les intérêts en commun.
Pour le général de division William Walker, ce nouvel accord avec ce pays d'Afrique de l'Ouest vise à établir une relation mutuellement bénéfique.
Ce que la garde nationale du District de Columbia espère obtenir de ce partenariat, c'est tout d'abord une occasion de se déployer dans un autre pays, un autre continent, et de faire quelque chose d'inconnu, de différent de ce que nous avons jamais fait auparavant. Et je pense que de tels exercices nous permettront d'améliorer nos niveaux de préparation respectifs.
La violence alimentée par les extrémistes est en hausse au Burkina Faso, qui a été témoin de plus de 230 attaques en un peu plus de 3 ans. L'ambassadeur Yang dit que le partenariat avec la garde nationale du district de Columbia arrive à un moment important dans l'histoire du Burkina Faso.
On a travaillé ensemble pour avancer nos intérêts dans le secteur de sécurité. sécurité. Et puis, ce mois-ci, on travaille ensemble pour faire la planification de notre engagement pour les 5 années à venir.
Pour le général Walker, le nouveau partenariat avec le Burkina Faso bénéficiera également du partenariat vieux de 20 ans avec la Jamaïque.
Avec la vision du général de corps d'armée Roque Mide, nous allons travailler en collaboration dans les deux pays. Cela permettra à la garde nationale de pouvoir collaborer avec la force de défense jamaïcaine pour accentuer le partenariat avec le Burkina Faso.
Et après Washington, la prochaine rencontre est prévue au mois de juillet à Ouagadougou.
J'invite le soutien de tous nos amis pour le 4 juillet 2019 parce que nous allons avoir à Ouagadougou les membres de la garde nationale qui vont venir nous aider à célébrer notre indépendance.
Le Burkina Faso est un allié stratégique et un partenaire actif dans la lutte contre les organisations extrémistes violentes. Le nouveau partenariat comprend surtout une assistance visant à renforcer la capacité de ce pays ouest africain dans des domaines spécifiques contre terrorisme, maintien de la paix, renseignement et consolidation des institutions de défense.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Les Sud-Africains sont appelés aux urnes ce mercredi 8 mai, un quart de siècle après les premières élections multiraciales de 1994. L'ANC devrait arriver largement en tête, mais le parti traverse une crise sans précédent. Les nombreux scandales de corruption et l'incapacité du gouvernement à redresser l'économie ont fortement écorné l'image de l'ancien mouvement de lutte anti-apartheid. Patricia Huyon vient de suivre le dernier grand meeting de campagne de l'ANC à Johannesburg.
Dans le stade d'Ellis Park à Johannesburg, devant une foule vêtue des couleurs jaune, noir et vert de l'ANC, Cyril Ramaphosa tenait dimanche son dernier grand meeting de campagne dans la capitale économique du pays. Une opportunité pour le chef de l'État de réaffirmer sa volonté d'incarner une nouvelle image du parti au pouvoir depuis 1994.
Nous acceptons les critiques qui nous ont été faites. Nous admettons que nous avons fait des erreurs. Et nous disons sans équivoque que nous sommes maintenant prêts à servir le peuple sud-africain.
De nombreux scandales de corruption ont entaché l'image de l'ANC. Mais selon les sondages, malgré les critiques, le parti est presque certain de sortir vainqueur de ce scrutin national et de conserver sa majorité au Parlement. Cyril Ramaphosa, qui tient son mandat des députés, sera alors assuré d'être reconduit à la tête de l'État. Parmi les militants venus à Ellis Park, beaucoup voulaient encore croire à une nouvelle ère grâce à ce nouveau leader qui a succédé à Jacob Zuma.
Il peut éradiquer la corruption. Oui, je pense que Ramaphosa peut faire ça. Je crois en l'ANC. L'ANC a toujours été là pour nous. Donc pourquoi laisserais-je tomber l'ANC? Je ne peux pas faire ça. Si les individus sont corrompus, il faut s'en débarrasser. Mais l'ANC reste le parti du peuple.
La lutte contre la corruption est l'une des principales demandes des électeurs, mais l'autre grand défi de Cyril Ramaphosa sera la relance d'une économie qui se porte mal et la lutte contre le chômage et les inégalités qui rongent toujours le pays. Une tâche qui ne sera pas facile, estime l'analyste politique indépendant Daniel Silke.
C'est une élection critique pour l'ANC. Le vote pour le parti s'érode de manière exponentielle à chaque élection. Il y a une frustration, pas seulement par rapport à la corruption, mais aussi à la faible performance économique. C'est peut-être la dernière chance pour l'ANC d'essayer de changer les choses.
Le parti reste aussi profondément divisé et l'influence d'anciens alliés de Jacob Zuma limite la marge de manœuvre de Cyril Ramaphosa pour imposer des réformes. À l'issue de cette élection, c'est au sein de l'ANC qu'un nouveau rapport de force se jouera. Patricia Huyon, Johannesburg, VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idriss Assidoudia à Washington. Bonne journée. À l'écoute de VOA Afrique.